Hier s'est achevé le 48e Forum économique mondial de Davos, placé sous le thème « Créer un avenir commun dans un monde fracturé ». Avec lui, s'est finie une semaine dense sur le front de la mondialisation, entamée lundi par un sommet de l'attractivité à Versailles, pour lequel le chef de l'État français a reçu 140 dirigeants de firmes étrangères. Suivi mardi du rapport annuel de l'ONG Oxfam, selon lequel 82% des richesses créées dans le monde l'année dernière ont bénéficié aux 1% les plus riches. Et puis mercredi, parce qu'on ne va quand même pas faire toute la semaine, chaque jour, on apprenait que le PDG de Carrefour prévoyait un plan de départ volontaire de 2400 employés, tandis que les chiffres du chômage pour l'année 2017 affichaient une relative stabilité, c'est-à-dire que la baisse a été minime. Bonjour Christophe Aguiton.
Bonjour.
Vous êtes l'invité de la deuxième heure, vous êtes chercheur, militant syndical et associatif, cofondateur d'ATTAC en 1998, également professeur associé au sein du Master Culture et Métiers du Web de l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée. On vous doit un certain nombre d'ouvrages, je vais citer juste les deux derniers puisqu'ils sont parus à l'automne dernier. La gauche du 21e siècle, enquête sur une refondation, paru aux éditions La Découverte. Et puis vous êtes le co-auteur aux éditions Les Liens qui Libèrent d'un livre collectif donc sur les alternatives qui peuvent tout changer. Un sommet des grands dirigeants lundi, un rapport le lendemain qui nous apprend que 42 personnes détiennent à elles seules plus de 3,7 milliards d'habitants de la planète. Un forum de Davos dont le thème paraît emprunté à l'altermondialisme. De toutes ces informations, Christophe Aguiton, que peut-on retirer ?
Je crois deux idées principales. La première, c'est qu'en effet, malheureusement, et Oxfam a bien raison de pointer ça, les inégalités ne cessent de croître, la précarité aussi, et dans tous les pays du monde, hein, au sud comme au nord. C'est pour ça que les distinctions ne sont plus celles qu'on pouvait faire dans les années 50 ou 60 entre le tiers-monde, les pays développés, etc. Mais la deuxième remarque que je peux aussi faire, c'est que depuis maintenant plusieurs années, le discours public a changé. Alors c'est un discours, hein, pour l'essentiel, qui parfois s'accompagne d'actes. On voit que sur le climat, il y a quand même des choses qui sont faites, pas suffisantes, hein, en France comme ailleurs, mais quand même. Et puis, sur toute une série de domaines, je pense au dumping fiscal, je pense à la nécessité de mieux protéger socialement les populations, de aussi faire attention aux inégalités hommes-femmes. Enfin, toute une série de sujets, on sent que le discours a changé et que tout le monde prend en compte, disons, les problèmes posés par cette mondialisation néolibérale. Mais entre les discours et l'action, il y a plus qu'un pas, hein, et qu'en général, on s'aperçoit, on va en parler peut-être plus précisément à propos du discours d'Emmanuel Macron à Davos, que les actions menées par les dirigeants, tant d'entreprises que de gouvernements, sont souvent à l'opposé de ce qu'ils déclarent. Hein, et qu'on a une série d'actions cumulées qui aggravent encore les inégalités qu'a pointé à juste titre Oxfam et que tout le monde dénonce depuis des années.
Vous évoquez, Christophe Aguiton, le discours d'Emmanuel Macron, effectivement prononcé mercredi au forum de Davos. Un discours qualifié par certains observateurs d'altermondialiste. Vous l'avez entendu, vous l'avez lu. Êtes-vous d'accord avec ces remarques et ces qualificatifs?
Non, je pense que franchement non, mais je comprends pourquoi les journalistes ou les analystes le disent, parce que c'est un discours qui comprend deux parties. Dans la première partie, il ne fait simplement que vendre d'une certaine façon ses réformes, il explique ce que fait la France, à quel point c'est merveilleux, enfin bref, il raconte ce qu'est son programme, ce qu'on connaît, puisque la campagne électorale nous a permis de l'entendre, et puis on voit bien qu'il met en œuvre ce qu'il a dit. La deuxième partie est plus étonnante, parce qu'en effet, elle commence par l'idée qu'il faut défendre les biens communs. Alors, il a une vision des biens communs qui est extrêmement large, il met dedans absolument tout ce qui peut concerner les services publics, par exemple, il parle de l'éducation, de la santé, qu'il range dans la catégorie des biens communs. Alors que le plus souvent, moi, dans le ouvrage collectif dont vous parlez, c'est moi qui ai écrit le chapitre sur les biens communs, et dans la définition courante qu'on donne des biens communs, c'est l'idée que c'est des biens qui ne sont ni de capitalisme, donc c'est pas une propriété privée, c'est souvent et presque toujours des propriétés collectives, mais ça n'est pas non plus l'État. Donc c'est différent de l'éducation ou des hôpitaux, par exemple. Les biens communs, c'est ce que les paysans font en commun quand ils gèrent, par exemple, les alpages dans les montagnes suisses ou autres. C'est là-dessus qu'avait travaillé Léonore Ostrom, qui était la première et seule femme qui a eu le prix Nobel d'économie. Ou alors des biens communs de la connaissance. Hein. C'est des choses que vous connaissez bien, mais je pense à Wikipédia ou même à l'Internet, qui sont des biens communs.
Mais ça, c'est une extension des biens communs. Terme emprunté au Moyen-Âge, il faut quand même le rappeler.
Et qui connaissent aujourd'hui une espèce de retour en grâce et un développement, en effet, avec une extension, surtout aux biens communs de la connaissance.
Et hein, c'est effectivement la conclusion hein, du grand discours. Il a parlé pendant une heure, Emmanuel Macron, ce qui est très rare pour un chef d'État à Davos. Et c'est effectivement sa conclusion, puisqu'il a engagé un nouveau contrat mondial fondé autour du devoir d'investir, du devoir de partager et du devoir de protéger, qu'il a appelé à retrouver ce qu'il a appelé une grammaire des biens communs. On va revenir à ce terme-là. Une grammaire des biens communs et une régulation mondiale en matière d'écologie, de santé, d'éducation et de formation. Il a même enjoint les grands de ce monde à ne pas faire de l'optimisation fiscale comme ils le font aujourd'hui. C'est un peu comme si, malgré tout, Christophe Aguiton, c'est un petit peu comme si Emmanuel Macron, vous avez lu, vous n'êtes pas le seul à parler des biens communs. C'est un terme qui est populaire aujourd'hui chez les altermondialistes, des philosophes et des économistes comme Pierre Dardot et Christian Laval en ont fait un très gros livre commun.
Un pavé, très utile,
on peut le
pareil.
Dire, voilà, aux éditions La Découverte. Malgré tout, effectivement, continuons sur ce thème-là, sur cette notion-là des biens communs. Vous dites que on peut étendre cette notion de façon assez large, que inclure la santé ou l'école comme le fait Emmanuel Macron, ça n'est pas rendre justice à ce terme des biens communs. Pourquoi donc ? Pourquoi on ne peut pas faire entrer la santé et l'école ou les services publics dans les biens communs ?
Je pense pour une raison quasiment de stratégie politique. C'est qu'au XXe siècle, il y avait deux notions qui s'opposaient terme à terme d'une certaine façon. C'était le capitalisme, donc la propriété privée des moyens de production, le marché comme seul moyen de mettre en adéquation les besoins et les capacités et l'offre. Bon, et puis en face de ça, le socialisme ou la gauche se définissait par l'idée que tout devait passer par l'État. On devait nationaliser l'économie, c'était dans le programme commun de la gauche, mais évidemment les régimes communistes l'avaient fait encore de façon plus radicale que ce qu'a fait François Mitterrand ou ce que proposait le programme commun de la gauche, mais c'était l'idée de nationaliser les grands secteurs économiques et de planifier l'économie pour éviter les crises cycliques du capitalisme. Et donc on avait cette opposition terme à terme dont on voit bien que, pour ce qui est de la gauche, elle est aujourd'hui usée. Qui pense que les nationalisations vont tout régler ? On a le bilan des sociétés planifiées et centralisées, Union soviétique et d'autres qui sont quand même pas glorieux. Et puis on a aussi en France ou ailleurs des expériences qui montrent qu'entre les grandes entreprises nationalisées, je parle pas des services publics, hein, mais les grandes entreprises nationalisées et les entreprises privées, la gestion était assez similaire, hein, et il n'y avait pas un plus et un avantage vraiment déterminant dans la nationalisation. Et face à ça, le mouvement altermondialiste a permis à la fois de retrouver les biens communs historiques, ceux en effet qui viennent du Moyen-Âge, les biens communs paysans en particulier, ceux qui se sont développés au 19e siècle, hein, qu'on peut ranger dans la catégorie des biens communs, je pense aux coopératives, hein, principalement, qui avaient été un peu mis sous le tapis par le mouvement ouvrier qui préférait parler de l'État et de la nationalisation, mais qui aujourd'hui reviennent en grâce, hein, les coopératives de production, hein, qu'on connaît bien. Et puis, il y a en effet deux nouvelles générations de biens communs qui sont tout à fait importantes. La première, c'est le numérique, qui a apporté énormément de choses. Wikipédia est peut-être le plus connu, mais il n'y a pas que ça, hein. En cartographie, par exemple, on a OpenStreetMap, qui joue un rôle très important quand il y a des catastrophes, je pense à des tremblements de terre ou autres catastrophes naturelles, où Google ne s'intéresse pas tellement à cartographier des pays pauvres comme Haïti. Les pouvoirs publics de ces pays n'ont pas les moyens, donc c'est OpenStreetMap qui sert aujourd'hui aux ONG ou aux intervenants pour pouvoir intervenir dans ces lieux, parce qu'en une catastrophe naturelle, il faut d'abord une carte, hein, pour pouvoir intervenir, pour se répartir le territoire.
C'est-à-dire etc. peut-être pas pour rien que parmi les initiatives les plus remarquables de ces biens communs qui ont été prises, hein, effectivement, efficacement d'ailleurs, vous citez l'eau, Christophe Aguiton.
Absolument. Ça, c'est l'autre génération de biens communs qui est nouvelle. C'est-à-dire, enfin, nouvelle, ancienne, mais revisitée. C'est le fait que les biens naturels, qui ne sont pas en soi des biens communs, hein, l'eau et l'air existaient bien avant l'humanité et continuera à exister si nos bêtises nous font disparaître de cette planète. Mais quand on est amené à être en confrontation, quand l'humanité est amenée à être en confrontation avec ces biens-là, ces biens naturels, ils peuvent être gérés comme des biens communs. Prenez, par exemple, la gestion de l'eau dans les oasis pré-sahariennes ou des lieux assez secs de ce type. Les paysans savaient comment gérer le peu d'eau pour que tout le monde en bénéficie. C'était un bien commun. Et aujourd'hui, en tant qu'humanité, on est confronté à ça. Comment on fait pour gérer, ben, par exemple, un bassin versant comme celui de la Seine ou celui du Rhône? Comment on évite les inondations? Ça concerne tout le monde, hein. Bon. Et c'est des choses qui peuvent être gérées comme des biens communs et pas laissées simplement au privé ou à l'État. Et puis, on va retrouver ça aussi sur la qualité de l'air, sur le changement climatique. Il y a plein de données. Ou la protection des forêts. Ou à chaque fois, on a un choix entre privé, public, ou laisser ceux qui savent faire, puisque c'est les populations autochtones, je pense en particulier aux forêts primaires, Amazon ou autres, est-ce qu'on peut laisser les populations autochtones faire dans une logique de bien commun? Voilà, c'est en ça que les biens communs sont intéressants, parce que c'est une sorte de troisième alternative, tant au capitalisme qu'à l'étatisme. Hein, et en ça, ils sont tout à fait novateurs, et vraiment en phase avec ce que réclament les zadistes, ce que les altermondialistes réclament depuis Porto Alegre, qui étaient les premiers contre Davos en 2001. On a toute une logique alternative dérive, je vous dis, tant au capitalisme qu'à l'étatisme, qui est personnifié, qui est symbolisé par l'idée des biens communs et par la défense de cette notion.
Capitalisme, étatisme, peut-être effectivement aussi, aujourd'hui, les géants du numérique qui inquiètent de plus en plus,
exactement,
non seulement les altermondialistes, les militants, les associatifs et les gens de la société civile plus largement, mais aussi, vous l'avez dit, dans le discours public, on le ressent de plus en plus, les dirigeants de cette planète. Ça a été l'un des points forts du discours d'Emmanuel Macron. On en écoute un extrait.
D'abord, on a pensé, ou on a fait croire que la croissance, ça concernait tout le monde. Ça n'est pas vrai. Parce que cette croissance, elle est structurellement de moins en moins juste. Il y a une concentration sur le 1% le plus riche qui se fait à chaque fois. C'est une économie de superstar. Donc elle favorise les gens très talentueux. Le changement technologique est porteur de nouvelles inégalités, de nouveaux changements qui font très peur aux gens. Et qu'on ne pense, là aussi, trop souvent que de manière non coopérative. Mais on n'a jamais d'approche multilatérale sur ce sujet qui va détruire des millions d'emplois, changer les règles de la vie privée, et donc construire le rapport au monde de nos citoyens. Ces changements technologiques, on fait tout pour les encourager chez nous, mais si on ne fait pas attention, et si on n'en pense pas le cadre, Schumpeter va très rapidement ressembler à Darwin. Et vivre dans un monde totalement darwinien n'est pas bon. C'est surtout pas bon pour nos peuples.
Christophe Aguiton.
Ben, c'est vraiment intéressant parce que le constat est tout à fait juste. Hein, on aurait tous pu employer les mêmes termes, en tout cas dans les milieux que je fréquente. Mais c'est une discussion qui est ancienne. Hein. Bon, on a eu par exemple dans les années 90 un grand économiste qui s'appelle Paul Krugman, qui est aujourd'hui un des opposants principaux à Donald Trump et réciproquement, qui avait une théorie qui était l'idée que naturellement, au début d'une phase d'innovation technologique, il y avait augmentation des inégalités, mais que ça allait se résorber. Parce que innovation technologique, ça veut dire plein emploi, et plein emploi, ça veut dire pouvoir des salariés qui peuvent négocier, se syndiquer et obtenir donc un rattrapage. Et pour ça, Paul Krugman s'appuyait sur deux expériences, deux moments historiques qui étaient le début du XXe siècle et puis les années 50. On parle souvent des années 50 comme celle du temps heureux ou des temps heureux. En fait, c'était une phase d'augmentation des inégalités très forte et ça n'est que plus tard, dans les années 60 et surtout après 68, au début des années 70, que le rattrapage s'est fait. Et Paul Krugman expliquait que ça allait se passer de la même façon dans les années 90.
Et ça ne s'est pas passé comme ça.
Pas passé du tout comme ça. Hein. Bon, Paul Krugman est revenu sur ses analyses. Il a eu, comme Stiglitz, la capacité de se rendre compte qu'il avait eu tort dans les années 90. Mais Emmanuel Macron reprend donc cette idée qu'il y a une augmentation des inégalités. Mais ce qui est frappant, c'est que non seulement il ne propose pas de vraie solution pour lutter contre ça.
Il a quand même
ça,
proposé qu'une solution soit trouvée à la défiscalisation des GAFA.
Voilà.
Vous allez me dire, c'est du discours, il n'y a pas encore d'action.
Absolument.
Mais il faut d'abord un discours avant d'agir.
Sur le dumping fiscal, les paroles qu'il a utilisées sont fortes et justes. Mais là aussi, on est de l'ordre du discours. Hein. J'espère qu'Emmanuel Macron et le gouvernement soutiendra, par exemple, l'attaque. Vous savez que Apple a porté plainte contre attaque parce que les militants d'attaque avaient perturbé le fonctionnement des boutiques en réclamant justement que Apple paye ses impôts, qui est exactement ce que Emmanuel Macron a revendiqué dans son discours, et à juste titre. Hein. C'est vrai que Google, Amazon, Apple doivent payer leurs impôts comme tout un chacun, comme les entreprises qui sont situées en France. Et là-dessus, il n'y a pas de problème. Simplement, pour l'instant, rien n'est fait. Mais plus inquiétant, quand Emmanuel Macron parle de la croissance des inégalités et du fait que c'est ce que rejettent les populations de nos pays, et c'est évident, hein, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a un effondrement des partis du centre et une montée à la fois de l'extrême droite, xénophobe, Le Pen, Trump, ou beaucoup des tenants du Brexit, mais de l'autre côté, d'une gauche plus radicale. Hein. Bon, ça a été la France insoumise en France, mais c'est en Angleterre Jeremy Corbyn qui a gagné la majorité dans le Parti travailliste, et des tas d'autres exemples qu'on pourrait développer longuement. Mais les pratiques et les décisions politiques prises par le gouvernement d'Édouard Philippe et d'Emmanuel Macron renforcent encore ce qu'il est en train de dénoncer. Prenez deux mesures très simples qui viennent d'être décidées en septembre, au moment des différentes lois de finances et votes des lois sur les questions de la fiscalité en particulier. On a deux exemples importants, deux éléments importants. Le premier, c'est la transformation de l'impôt sur la fortune. L'impôt sur la fortune, c'était quelque chose qui touchait avant tout ceux qui avaient un appartement coûteux à Paris ou des propriétés immobilières, et ceux-là vont continuer à payer. Et c'est très bien, c'est des gens aisés, hein, c'est pas forcément des super riches, hein, ça fait partie des 5%, disons, les plus riches de notre pays. Mais les 1% dont ils dénoncent le fait que c'est eux qui accaparent les richesses, eux, ils vont sortir de l'impôt sur la fortune. C'est ceux qui ont ce qu'on appelle les valeurs mobilières, c'est-à-dire des actions. Hein, c'est Bernard Arnault, c'est des gens comme ça, c'est les gens les plus riches de France qui, eux, vont voir toute cette partie-là de leur patrimoine être sortie de la base taxable de l'impôt sur la solidarité, enfin l'impôt sur la fortune.
Et deuxième exemple ?
Deuxième exemple, c'est ce qu'on appelle la flat tax, c'est-à-dire l'idée que sur les produits financiers, on ne paiera plus que 30% maximum. Or, il y a près de 14% qui sont prélevés en tant que CSG, ce qui est normal, hein, comme sur tous les biens et les créations de valeur, mais l'impôt lui-même ne sera que de 16%, alors que les gens qui sont riches payent 30, 40, 45% d'impôt sur la tranche supérieure, ce qui est là aussi logique, ils vont y échapper. Ils vont passer de 30, 40, 45% à 14%. Et donc là, on voit qu'il y a une deuxième décision qui va renforcer encore les inégalités sur ces 1%.
Attendons de voir.
Non, mais ça, c'est déjà décidé.
8h31 sur France Culture.
France Culture, les matins du samedi, Caroline Brouet.
On vous retrouve dans quelques minutes, Christophe Aguiton, tout de suite après la revue de la semaine de Mélanie Chalandon. Bonjour Mélanie.
Bonjour Caroline.
On continue de parler d'économie d'ailleurs, mais peut-être pas avec un détour par l'histoire.
Et oui, alors que les grands acteurs de l'économie mondiale se retrouvaient toute cette semaine à Davos, vous l'évoquiez, on trouvera sur le site The Conversation une réflexion intéressante sur les premiers penseurs de l'éthique du commerce. L'article est signé Catherine Kikuchi, chercheure à l'école française de Rome. Au Moyen-Âge, rappelle-t-elle, toute activité un peu trop prospère et douteuse ou suspecte en cause le poids de l'Église et son aversion pour l'argent. De nombreux théologiens réfléchissent alors à des règles pour encadrer le commerce. Même les franciscains qui promouvaient une vie de pauvreté commencent à affirmer l'utilité du marchand pour la communauté, activité nécessaire à condition qu'elle s'exerce dans des bornes raisonnables. Certes, le marchand qui a pris des risques a le droit de s'enrichir, mais une fois prospère, il doit mettre sa fortune au service de la communauté. C'est la définition du juste profit qui s'élabore. La cupidité, à l'inverse, péché capital, doit être évitée à tout prix. Bref, explique Catherine Kikuchi, on assiste à une véritable réflexion de fond sur l'éthique des marchés économiques naissants. Alors les marchands l'ont-ils suivi en réalité ? Modérément, nous dit-elle, mais aux yeux de beaucoup, ils étaient tenus par un contrat moral envers la société qu'ils devaient honorer.
L'interview d'un grand marchand, pour continuer, un grand marchand de notre temps, c'est-à-dire justement dans le Figaro.
Et oui, vous l'évoquiez à l'instant, Christophe Aguiton, Bernard Arnault. Alors, contrat moral ou pas, on apprend dans le Figaro hier que LVMH va ouvrir un nouvel atelier de maroquinerie en France, en Vendée. C'est Bernard Arnault lui-même qui l'annonce dans une interview accordée au journal. LVMH qui a réalisé, apprend-on, des bénéfices records en 2017, une croissance deux fois plus rapide que celle du marché. Notre seul problème, déplore Bernard Arnault, c'est que nous ne pouvons pas satisfaire toute la demande et dans certains secteurs, nous manquons de main-d'œuvre. Et cela devrait continuer à en croire l'analyse économique du grand patron qui observe une hausse du niveau de vie et du pouvoir d'achat dans le monde. Certes, l'augmentation des inégalités est aussi une réalité, concède-t-il, mais le nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté s'est réduit depuis 25 ans, grâce aux grands marchands. Peut-être le Figaro ne pose pas la question.
Et un tout autre sujet, il a été évidemment question de bande dessinée dans la presse cette semaine, alors que se tient jusqu'à demain le festival de la bande dessinée d'Angoulême.
Un excellent millésime, titrait les Échos jeudi, en référence, alors non pas à la qualité des albums, mais au très bon chiffre de vente de la bande dessinée en 2017, plus 9%, soit 43 millions de titres écoulés. En tête, bien sûr, l'indétrônable Astérix, suivi de Titeuf et de la réédition de Tintin au pays des Soviets. Et pourtant, les auteurs de bande dessinée ne roulent pas sur l'or. Loin de là, 53% d'entre eux ont un revenu inférieur au SMIC et 36% vivent sous le seuil de pauvreté, rapporte le magazine Challenge. Mardi, Libération publiait justement la tribune de plusieurs auteurs dénonçant leur précarité croissante. Parmi les signataires, Pénélope Bagieux, Florence Sestac, Cyril Pedrosa. L'état du marché, rappelle-t-il, c'est bien souvent 7000 euros pour la production d'une œuvre qui demandera un an de travail à temps plein. Ils entendent bien profiter de ce 45e festival pour se faire entendre. Libération publiait aujourd'hui aussi, cette semaine, le portrait de Richard Corben, le lauréat du Grand Prix d'Angoulême 2018. Choisir Corben et ses héroïnes sculpturales court-vêtues, l'année de Balance ton porc, il fallait oser, écrit le journal. Corben et ses récits d'horreur gothique et de fantaisie, il était un maître de la chute grinçante. À la grinçante cruauté, nous raconte Libération, de la BD sanglante, noire et moite. Et si on veut reprendre un peu de lumière, on pourra lire le reportage d'Hebdo à travers la ville d'Angoulême, celle des écoles et des dessinateurs qui planchent toute l'année. Le journal a poussé quelques portes pour découvrir le bouillonnement des ateliers, maisons des auteurs où séjournent des artistes venus du monde entier. Ateliers de sculpture, de photos, de sérigraphie, bref, la ville ne se résume pas à son festival. Et pour terminer, si vous aimez aimez les auteurs Rupert et Mulot, je vous conseille d'aller voir sur le site du Monde.fr les deux strips qu'ils ont réalisés à l'occasion du festival. Ça s'appelle Angoulême de jour et Angoulême de nuit, évocation d'un schtroumpf géant, de chope de bière et d'envie pressante.
Vous êtes amateur, lecteur de bande dessinée ou pas, Christophe Aguiton?
Oui, j'ai pas de BD favorite, mais j'en lis quand même pas mal, j'aime bien.
Alors, on vous retrouve pour cette dernière partie des matins du samedi, Christophe Aguiton. Vous êtes chercheur, militant syndical et associatif, cofondateur d'Attaque, auteur d'un livre notamment qui a paru à la Découverte à l'automne dernier, La gauche du 21e siècle en quête sur une refondation, qui est un livre sur la façon dont les mouvements de gauche du siècle naissant, que ce soit en Amérique latine ou que ce soit en Europe avec notamment Syriza et Podemos, ont pu contribuer à relancer la gauche ces 20 dernières années. Aujourd'hui, c'est la date butoir pour le dépôt des candidats au poste de premier secrétaire du Parti Socialiste avant le congrès des 7 et 8 avril, avec 4 ou 5 candidats déclarés, on en saura plus cet après-midi. Est-ce que le Parti Socialiste fait partie de la gauche qu'il faut sauver? Est-ce qu'il faut sauver ce navire Parti Socialiste? Est-ce que cette gauche du 21e siècle se refondra avec ou sans ce parti, selon vous?
Ça dépend ce que le Parti Socialiste va faire et va défendre sur le plan politique et doctrinal, hein, au sens de vraiment ce qu'est son contenu idéologique, sa base idéologique. Parce qu'il y a trois orientations qui existent et qui cohabitent dans le Parti Socialiste. Il y a d'abord tous ceux qui sont quand même assez tentés par Macron. Il y en a beaucoup. Beaucoup sont déjà passés chez Macron, hein, Manuel Valls entre autres, mais parmi d'autres. Bon, et on voit bien que chez les députés qui avaient déjà été députés auparavant, la plupart venaient du Parti Socialiste, dans ce qui est aujourd'hui La République En Marche, mais il y en a encore beaucoup qui sont au Parti Socialiste proches de cette orientation. Et puis on a un centre qui est, disons, assez classique, qu'on pourrait appeler social-démocrate, qui sont les socialistes qui voudraient revenir à, disons, une balance entre la défense des lois du marché d'un côté, mais quand même des lois sociales de protection de l'autre. C'est Martine Aubry, c'est Anne Hidalgo, qui rêve un petit peu probablement à la ligne espagnole ou allemande, hein, avec Schulz et Sanchez, qui l'un comme l'autre incarne un peu cette orientation social-démocrate. C'est probablement ça qui va l'emporter. Et puis il y a une troisième possibilité, qui est la gauche du Parti Socialiste. Il n'y a qu'un candidat qui le représente, c'est Morel, hein, qui est un des Emmanuel Morel, un des cinq candidats actuels, mais il y en aura peut-être plus, hein, on le verra aujourd'hui à l'heure finale. Et cette gauche-là doit savoir ce qu'elle veut faire et comment elle va s'organiser. Hein, on a déjà une partie qui en est sortie, mais on a aujourd'hui une incapacité à comprendre ce que va être le Parti Socialiste de demain. Si c'est pour refaire du Macron, c'est pas la peine, ça existe déjà. Si c'est pour avoir une ligne social-démocrate classique, je pense que le chemin est très étroit, hein, et que aujourd'hui il y a peu de place pour ça. Une vraie gauche, pourquoi pas, mais à ce moment-là, il faudra discuter avec la France Insoumise, avec Europe Écologie Les Verts, avec les communistes, avec tous ceux qui essayent de faire vivre, disons, cette radicalité à gauche.
À qui, Christophe Aguiton, peuvent servir les expériences que vous rapportez, donc encore une fois de l'Amérique latine à l'Europe, Syriza, Podemos et d'autres partis encore, d'autres expériences même à gauche, à qui peuvent servir ces expériences selon vous, parmi les trois orientations en France dont vous parlez? Gauche?
Je pense qu'aujourd'hui, le courant qui est évidemment dominant, c'est la France Insoumise, hein, on l'a vu sur le plan électoral, on le voit sur le plan militant, c'est là où il y a le plus de dynamique, hein, avec la limite des dynamiques qu'on peut observer dans le champ politique, qui sont quand même pas énormes. Mais c'est là où les choses se passent pour l'essentiel. Reste à savoir comment la France Insoumise va prendre en charge ces nouvelles questions. Pour partie, c'est fait, hein. On peut voir que Jean-Luc Mélenchon, sur les questions écologistes, par exemple, a fait des pas en avant tout à fait considérables, parce que c'était pas du tout son histoire, hein. Quand il était au Parti Socialiste, c'était un socialiste ordinaire. Donc franchement, l'écologie, c'était loin de leur priorité. Là, ça a changé. C'est parfois, à mon avis, un peu trop étatiste, hein, l'idée de refaire des grands services publics. Je suis pas forcément sûr que c'est comme ça qu'il faut faire. Prenez, par exemple, l'énergie et l'électricité. On voit bien que le modèle qui est le plus efficace, c'est le modèle allemand, où c'est souvent des coopératives d'habitants qui mettent en place des énergies renouvelables, en particulier solaires, et qui s'organisent entre eux pour mettre en place tout ça. Et ça a permis un décollage considérable tout ce que sont les énergies renouvelables en Allemagne, qui change complètement le marché de l'énergie en Europe. On voit bien que la crise d'EDF tient à ça en partie, hein. C'est qu'il y a une baisse des prix liée au fait que le renouvelable, c'est pas cher. Une fois qu'on l'a installé, ben voilà, ça produit en permanence de l'énergie. Et EDF a du mal à tenir la rampe et à jouer d'une certaine façon la concurrence avec ce type de nouveaux producteurs d'énergie. Bon, ça, à mon avis, c'est l'avenir, hein. Bon, chez Mélenchon, c'est un petit peu ambigu, hein. On a parfois l'impression de réponse un peu étatiste. Mais malgré tout, le tournant a été pris, hein, sur l'écologie, et c'est tout à fait positif. Il y a toute une série d'autres domaines sur lesquels, là aussi, les expériences d'Amérique latine nous montrent qu'il faut rompre avec le productivisme, par exemple, hein, rompre avec l'idée qu'on peut uniquement compter sur la croissance pour changer les choses. On a vu ce à quoi ça a amené le Venezuela, baisse du prix du pétrole, crise majeure dans le pays. On voit toutes les difficultés en Équateur pour les mêmes raisons. On voit aussi qu'au Brésil, une politique purement extractiviste, c'est-à-dire basée sur l'exploitation des matières premières agricoles, pour ce qui est le cas du Brésil, amène aussi à des crises majeures à chaque fois qu'il y a un retournement des prix mondiaux. Donc là, c'est d'autres modèles qu'il faut penser. Et je pense qu'il faut s'inspirer des difficultés qui sont celles des pays latino-américains qui ont élu des gouvernements progressistes.
Mais pas reproduire les mêmes erreurs.
Pour ne pas reproduire les mêmes erreurs.
Christophe Aiguiton, vous terminez votre ouvrage non seulement par cet appel au bien commun dont on a parlé tout à l'heure, mais aussi par un souhait d'une radicalisation de la démocratie, au sens où, pour vous, ces changements vertueux démocratiques passera par une refonte des institutions. Le gouvernement est en train d'y travailler. Emmanuel Macron a promis notamment la réduction d'un tiers du nombre de parlementaires pour rendre le Parlement plus efficace, plus clair, plus actif. Est-ce que ça va dans le sens d'une démocratie radicale que vous appelez de vos voeux?
C'est des tout petits pas. Il y en a qui sont positifs. L'idée de réduire, par exemple, la durée des mandats, je pense que c'est une bonne idée. Demander à un député qu'il ne puisse pas être élu plus de 3 fois, c'est quand même le minimum. Même chose pour un maire ou un sénateur. Donc il y a des bonnes idées de ce type qui sont limitées. Il n'y a quand même pas beaucoup de députés ou de sénateurs qui étaient élus plus de 3 fois. Mais autant l'inscrire dans la loi, c'est positif. Inscrire dans la loi, ça avait commencé depuis plusieurs années, mais il faut l'amplifier. L'idée qu'on ne peut pas cumuler les mandats. Bon, ça commence à être fait. On peut pas être maire et député en même temps, en tout cas dans les grandes villes, et c'est tout à fait positif. Bon, il y a toute une série de choses qui vont dans le bon sens et qui sont portées par tout l'arc de force politique, et pas uniquement par Emmanuel Macron, la France Insoumise ou quelques partis. Je crois que tout le monde le porte, plus ou moins, mais quand même. Mais il faut aller bien au-delà. Bon, et on voit que là, il y a toute une série de réticences de la part d'Emmanuel Macron, parce qu'il a une vision qui est quand même très centralisée et très verticale du pouvoir et de l'autorité. On pourrait avoir, par exemple, beaucoup plus de référendums d'initiative populaire. Les Suisses font ça depuis des décennies et ils ne s'en portent pas plus mal. On sait que dans les États de l'Ouest américain, par exemple, il y a la capacité d'avoir des référendums d'initiative populaire qui amènent à des vrais changements dans ce pays. Bon, je donne 2 exemples, assez différents, mais qui vont un peu dans le même sens malgré tout. La légalisation du cannabis. On voit bien qu'aujourd'hui, le cannabis, c'était comme la prohibition de l'alcool dans les années 20. Quand on l'interdit, c'est de la criminalité généralisée et la santé publique ne se porte pas mieux. Bon, et donc, on voit qu'aux États-Unis, beaucoup de votes ont eu lieu dans les États importants, Californie, Massachusetts, pour légaliser le cannabis. Deuxième exemple, c'est le salaire minimum. Vous savez qu'il est très faible aux États-Unis. Et là aussi, on voit des référendums d'initiative populaire permettre, je pense à nouveau à la Californie, d'augmenter de façon très très substantielle le salaire minimum. Donc la démocratie radicale, c'est ça. C'est ouvrir le maximum d'espace dans lequel les gens puissent s'exprimer et décider, pas simplement s'exprimer, mais aussi décider. Et puis c'est voir aussi comment dans le monde des biens communs, à nouveau, je pense à l'Internet, on peut avoir des formes nouvelles, différentes de celles qu'on connaissait auparavant. Je pense au consensus, à l'idée qu'on peut parfois, c'est comme ça que fonctionne l'Internet, c'est comme ça que fonctionne Wikipédia, et on voit bien que tous les mouvements dits des places, je pense à Nuit debout en France, ou les Occupy, ou les Indignés en Espagne ou aux États-Unis, avaient essayé d'expérimenter cette démocratie du consensus. On a aussi le retour en grâce du tirage au sort, qui peut être utile dans de nombreux cas. Bref, il y a des tas de méthodes qui soit sont anciennes, le tirage au sort, c'était la Grèce antique, c'était Athènes, c'est pas un système nouveau, mais qui reviennent aujourd'hui sur le devant de la scène, parce que ça permet d'associer massivement les citoyens à l'action publique, à l'action politique et donc au processus de décision. Et c'est une exigence, je pense, de plus en plus importante dans nos sociétés. On a un niveau d'éducation qui augmente. On voit bien que plus de 60% d'une classe d'âge aujourd'hui arrive au supérieur, alors dans des formations de qualité diverse, c'est encore une autre question, mais qui permettent en tout cas à beaucoup, beaucoup de gens de pouvoir se sentir tout à fait aptes et capables de prendre des décisions dans tous les domaines qui les concernent. Et là, on a vraiment des espaces tout à fait nouveaux à ouvrir et on voit que le gouvernement en est assez loin, même si des petites mesures, comme la limitation des mandats ou l'introduction d'un peu de proportionnel, c'est mieux que rien, mais c'est quand même très limité.
Fut un temps, Christophe Aiguiton, où les sommets, en particulier les sommets de Davos, étaient accompagnés de contre-sommets.
Absolument.
Des sommets qui, par exemple, le Forum social mondial était organisé. Le Forum social mondial s'est essoufflé, on peut le dire comme ça, peut-être. Peut-être aussi parce que ces sommets, les discours des altermondialistes ont été récupérés ou en tous les cas prise de conscience par le discours public, disiez-vous tout à l'heure, ont été récupérés par un certain nombre de dirigeants. Le livre qui vient de sortir d'Alain Minc, Une humble cavalcade dans le monde de demain, est qualifié de Mincle rouge par Laurent Geoffrin cette semaine dans Libération, tant il est préoccupé par le creusement inexorable des inégalités et le monopole des GAFA, lui qui était le chantre de la mondialisation heureuse. Bref, est-ce que c'est pour cette raison qu'on a le sentiment que le mouvement altermondialiste est absent ou silencieux.
Il y a deux raisons. La première, c'est celle que vous indiquez, hein, c'est-à-dire que à l'évidence, au tout début du mouvement altermondialiste, fin des années 90, début des années 2000, on avait face à nous une espèce de pensée unique, c'était l'expression consacrée à l'époque, qu'il fallait casser d'une certaine façon. Ça, c'est fait. Aujourd'hui, plus personne ne va dire que la mondialisation va par elle-même produire des effets enchanteurs. L'idée de la mondialisation heureuse, vous rappelez à juste titre le titre d'un livre d'Alain Minc dans les années 90, c'est fini. Et lui-même est obligé d'écrire des choses différentes. Donc évidemment, ça, c'est pas que ça affaiblit. C'est chaque fois qu'un mouvement gagne, on le voit pour les écologistes, dans les cœurs et les esprits, et bien évidemment, son utilité diminue. Mais il y a une deuxième raison tout aussi importante, c'est que les formes d'action ont changé. Hein. C'est-à-dire qu'on voit bien dans le mouvement des places, hein, dont on parlait tout
une
à l'heure.
Une volatilité des organisations.
Exactement. Parce que le mouvement altermondialiste, c'était une espèce d'horizontalité des organisations. Hein. Mouvement syndical, mouvement paysan, mouvement féministe. Il n'y avait plus de hiérarchie où la classe ouvrière aurait été censée être la seule à pouvoir changer les choses. Tout le monde était à égalité et on était riche de nos diversités. Mais aujourd'hui, il y a une forme de radicalisation de ces formes d'action et d'organisation où on voit que dans le mouvement des places, c'est les individus. Alors ça pose toute une série de problèmes. Hein. Ça permet à des tas de gens de s'exprimer en tant qu'individus, ce qui est positif. Ça leur permet de se réaliser et de pouvoir exprimer ce qu'ils pensent. Mais comment réaliser un consensus entre individus, c'est autre chose qu'entre organisations. Il faudrait beaucoup de temps pour en discuter. Mais on voit bien qu'il y a cette évolution-là avec des aspects tout à fait positifs, mais aussi des difficultés qui est en train de s'opérer.
Vous restez avec nous pour le dernier quart d'heure ?
Avec plaisir.
Merci. Il est 8h46 sur France Culture. Dernier quart d'heure qui commence par l'idée culture. Chaque samedi, une personnalité du monde des idées nous confie son choix d'une œuvre artistique qui l'a particulièrement marquée dans sa vie. C'est Mélanie Chalandon qui s'occupe de cette rubrique.
Eh bien, ce matin, c'est l'historien Christophe Prochasson qu'on va entendre. Christophe Prochasson qui est spécialiste de l'histoire politique et culturelle de la France, 19e, 20e siècle. Il préside aujourd'hui le HESS. Alors son choix, eh bien, ça parle d'amour et de genoux.
Je vais vous parler d'un film d'Éric Rohmer qui s'appelle Le genou de Claire et qui, parmi tous les contes moraux, est peut-être celui que je préfère en raison peut-être de sa clarté et aussi peut-être des acteurs. Alors dire en quelques mots l'histoire du genou de Claire, c'est une tâche pas commode parce qu'au fond, l'histoire est très mince. Un homme retrouve une Jean-Claude Brialy, une ancienne amie avec lequel on ne sait trop si il a eu une relation amoureuse ou plusieurs années, et il va la voir et il se trouve que cette personne vit au milieu d'une famille parmi laquelle il y a une autre femme, mais beaucoup plus jeune celle-ci, d'une vingtaine d'années, cette fameuse Claire, dont il s'éprend soudain. Mais le plus important, et d'où le titre de ce film, c'est que au fond, son coup de foudre amoureux, sa passion amoureuse, s'est focalisée sur son genou.
Et je me disais que dans toute femme, il y a un point plus vulnérable. Pour les unes, c'est la naissance du cou, la taille, les mains. Pour Claire, dans cette position, dans cet éclairage, c'était le genou. C'était le pôle magnétique de mon désir.
Et tout ce qu'il demande, en quelque sorte, c'est la... le caractère un peu janséniste et ultra pudique de Rohmer, c'est de pouvoir accéder à ce genou. D'abord, pour ne rien vous cacher, c'est un film, comme tous les films de Rohmer, extraordinairement bavard. Et pour quelqu'un comme moi qui s'est intéressé beaucoup aux discours, aux intellectuels, il y a toujours quelque chose de fascinant à entendre les acteurs, les personnages de Rohmer, toujours... se retourner vers eux-mêmes et s'expliquer. Et puis il y a aussi une autre raison, je crois, qui intéresse toujours un historien, c'est la question du hasard. Lorsque, par hasard précisément, Jean-Claude Brialy voit son rival rencontrer une autre femme et dénonce cette liaison apparemment trouble avec une autre femme auprès de la femme dont il est épris, et cet élément du hasard qui remet tout en cause, qui perturbe tout à fait l'histoire, évidemment, pour un historien, c'est toujours fascinant, le rebattage des cartes, si vous voulez, par le petit caillou qui se place sur votre chemin.
Est-ce qu'il y a une scène en particulier dans votre souvenir qui vous a marqué ?
Oui, il y a une scène extraordinaire à la fin du film qui dénoue véritablement le film, où... tout d'un coup, les deux Jean-Claude Brialy et la fameuse Claire se retrouvent pour en quelque sorte s'expliquer, et on voit se faire face à face une femme submergée par l'émotion et un homme totalement du côté de l'analyse et de la lucidité sur ses propres passions. Et cette rencontre, évidemment, est sidérante, à la fois d'un point de vue cinématographique et tout simplement presque, je dirais, de mise en scène.
Alors, admettons que je ne t'ai rien dit.
Rendez-vous.
Ben, je me tais, mais tu es drôle. Tu me dis qu'il est agronome. Moi, je le vois à Annecy, alors tu permets que je m'étonne.
Enfin, Gilles fait ce qu'il veut, ça ne vous regarde pas, enfin.
Écoute, ne prends pas comme ça, moi. Tu sais ce que je te disais, c'était pour...
Taisez-vous.
Dans la filmographie de Romer, enfin, sur les six contes Moreau, c'est sans doute un de ceux qui résiste le mieux. Je ne sais pas à quoi ça tient, d'ailleurs. Je pense que, peut-être plus que tout autre, cette recherche permanente de la lucidité, on dirait peut-être de la conscience critique. Il n'y a pas de naïveté ou de candeur dans ce film-là. Je trouve que c'est un cinéma qui donne envie... C'est toujours pénible quand ça s'arrête. Parce qu'on aimerait bien que la conversation continue et continue et continue et que l'histoire ne s'interrompe jamais. Or, surtout dans ce film-là, ça s'interrompt d'une certaine façon au meilleur moment. C'est-à-dire que au moment où la chose peut arriver ou arrive ou est à deux doigts d'arriver et clac. Et ce malicieux de Romer vous dit, au fond, dans l'amour, ce qu'il y a de mieux, c'est avant.
C'est un peu comme nous, on va parler de l'amour, hein, mais le fait que je vous ai claqué, la conversation s'est arrêtée au moment où c'était vraiment le plus intéressant. Voilà. C'est pénible quand ça s'arrête avec vous aussi. Christophe Aguiton, merci de nous accompagner donc pour ce dernier temps des matins du samedi. On va passer au mitonnage de Jackie Durand qui s'est assis en face de vous. Aimez-vous les quenelles, Christophe Aguiton ?
Oui, il faut que ce soit un peu relevé, hein, la quenelle. Hein, ça peut être un peu fadasse.
Vous voyez ce qu'il vous reste à me dire, Jackie Durand. Vous nous parlez donc des quenelles ce matin.
Oui, ce matin, je vous parle des quenelles. Et c'est peut-être comme l'amour, c'est peut-être très bien avant, quand on salive, sur l'idée des quenelles de brochet sauce. Non, tu as imaginé, Caroline, des bonnes grosses quenelles soufflées, moelleuses, nappées d'une sauce divine. Ça donne faim depuis le matin, non ? On en boufferait comme ça en sortant du four. Bon, allez, on prend le TGV. De 10h, on part pour Lyon, je vous emmène au Waal, manger une poignée de gratons avec un petit verre de blanc. Et puis on prend un fiacre, comme ça on remonte la Saône.
On prend un fiacre.
Ouais, un fiacre. Allez, on longe la Saône jusqu'au pot de Collonges, où on va mettre les pieds sous la table chez Bocuse. Pour goûter quoi ? Pour goûter ces fameuses quenelles. Je sais, vous allez me dire, c'est pas raisonnable. Mais il ne faut surtout pas être raisonnable quand on est dans son assiette. Comme dirait l'autre, quand on va dans un gastro, c'est pour lâcher les chevaux. Sinon, bah, on retourne à son cuit-vapeur et puis à ses brocolis. Non, les quenelles sauce Nantua, c'est outre les bestioles d'eau douce citées, brochets et écrevisses, c'est du beurre, encore du beurre, de la crème épaisse, du cognac, du vin blanc... Hein, c'est que des bonnes choses. Mais surtout, cette recette, elle est emblématique de la gastronomie, on va dire, entre Saône et Rhône, celle des mers lyonnaises où Bocuse a fait ses armes. C'est une cuisine qui raconte la fricassée de volaille de Bresse, avec des morilles, s'il vous plaît, le gratin de cardon, les œufs à la neige, j'en passe, tous des plats qui sont ancrés comme ça dans le patrimoine des cuisines régionales, extrêmement lisibles pour le mangeur consultant la carte. Si je vous dis baba au rhum, c'est simple. Ça vous parle tout de suite. Ça fait partie de ces desserts comme ça de la mémoire collective qu'on va manger comme ça sur une banquette en Moleskine ou dans une pâtisserie du dimanche. Il n'y a pas besoin de dictionnaire de la gastronomie pour décrypter la carte de Bocuse. Elle parle tout de suite à nos papilles, elle nous semble proche. Bocuse, il a eu le génie de rendre accessible la gastronomie, de la vulgariser au bon sens du terme. Il a su façonner une image qui parlait à tous les publics, à toutes les générations. Même si, au fond, il était plus en retrait de la scène qu'on peut le penser.
On a beaucoup dit aussi que Paul Bocuse incarnait la cuisine des bons produits, Jackie.
Ah, les bons produits, on en parle beaucoup. C'est surtout la simplicité des ingrédients, parce que si vous regardez sa recette, c'est une recette du 19e siècle.
Celle du brochet.
Oui, tout à fait. Les quenelles de brochet, c'est 19e siècle, c'est une époque où le brochet pullule dans la Saône et dans les autres rivières, tout comme les écrevisses. Et c'est une histoire de panade. Vous savez, la panade, c'est du lait, du beurre, de la farine. C'est des ingrédients extrêmement simples. La quenelle, ça vient du fond des temps, de l'allemand knödel notamment, du yiddish kenapé, qui voulait dire petite boule de pâte. Dans l'Antiquité, on connaît déjà la quenelle dans les recettes d'Apicus, qui servaient les empereurs romains. À l'époque, on mettait du poisson, des crustacés, des coquillages pilés au mortier. On ajoutait des épices pour que ça soit relevé, n'est-ce pas, avec un peu d'œuf. Et puis on moulait tout ça avant de le cuire dans l'eau bouillante. Plus tard, les quenelles furent très à la mode dans les grands soupers de Louis XV. Alors, ça peut sembler évident, la quenelle sauce Nantua, comme ouvrir une boîte ou le congélateur, puisqu'on trouve ces produits effectivement directement manufacturés. Mais il faut se méfier de la simplicité en cuisine. Si jamais vous consultez le gros livre de cuisine de l'Institut Bocuse, qui est édité chez Larousse, faire une quenelle de brochet, c'est pas moins de 10 étapes. C'est un vrai boulot. Une sauce Nantua, c'est aussi vraiment du travail. Il faut faire un fumet de poisson. On pourrait décortiquer ensemble 1 kg d'écrevisses comme ça qui sort de l'eau bouillante et puis monter la sauce au beurre, c'est encore du travail. En fait, quand on goûte tout ça, on ne sait pas forcément tout ce qui se passe avant. L'agitation, le coup de feu en cuisine, chez Bocuse et ailleurs, on l'entend quelquefois à travers les bruits de casserole du passe-plat, mais ni plus ni moins. Pourtant, il ne faut pas se tromper. La cuisine de Bocuse, placide, bras croisés comme ça sur les photos, c'est un tour de force quotidien et une obsession que partagent les chefs. La perfection et la régularité, être bon tous les jours.
Christophe Aguiton, est-ce que ça vous a réconcilié avec les quenelles de brochet, pas forcément très épicées?
Oui, on va essayer, hein, mais en même temps, ce que vous avez décrit, c'est un peu de la sauce béchamel. C'est pas forcément...
Ça s'appelle la sauce Nantua.
Voilà.
Du beurre et encore du beurre. The levee breaks, have no place to stay. Mean old levee taught me to weep and moan. Mean old levee taught me to weep and moan. It's got what it takes to make a mountain man leave his home. Ce qu'on entend, Christophe Aguiton, c'est votre choix musical pour terminer. Vous avez choisi de nous faire entendre Led Zeppelin, mais pas n'importe quelle chanson de Led Zeppelin. When the levee breaks, il faut sans doute le traduire pour que les auditeurs comprennent bien.
Quand la digue saute ou casse. Bon, en fait, c'est une chanson qui vient du blues américain, qui rappelle la grande inondation, pour ceux qui s'en rappellent, c'est évidemment pas mon cas, de 1927 du Mississippi, et qui était une chanson donc de blues qui a été reprise en rock par les Led Zeppelin en 71. Hein, bon, et je trouve que le mélange va bien entre les deux, parce qu'on sent le blues, mais en même temps c'est Led Zeppelin, hein, donc c'est du rock. Et ce qui était aussi amusant, c'est deux choses. D'une part, c'est la référence à la crue de la Seine, et malheureusement on en aura de plus en plus, hein. Le réchauffement climatique, hein, c'est comme quand on met une casserole d'eau sur le feu, hein. On augmente de 2 degrés une planète qui est aux deux tiers composée d'eau, et ben ça s'évapore, ça fait de la vapeur d'eau, et donc il pleuvra plus dans les temps qui viennent, donc on aura des inondations.
Et pas seulement de la Seine. Hein.
Et pas seulement de la Seine,
la Marne,
absolument.
Déjà,
la Marne, la Saône dont on parlait, et de bien d'autres. Bon. Et puis aussi, c'est la deuxième référence et chose amusante avec ce morceau, c'est un des morceaux qu'avait choisi Adam McKay dans son film The Big Short, qui est le casse du siècle, qui est le film sur le début de la crise financière de 2007, et donc c'est à nouveau une référence à la mondialisation.
Un choix extrêmement réfléchi. Merci beaucoup, Christophe Aguiton. Merci d'être venu ce matin dans les matins du samedi. La gauche du 21e siècle, enquête sur une refondation, c'est votre livre paru aux éditions La Découverte, et je rappelle que vous êtes le co-auteur et également avec Geneviève Azon, Elisabeth Peredo et Pablo Solon, du monde qui émerge, des alternatives qui peuvent tout changer, ou les éditions Les Liens qui libèrent. Vous étiez en charge du chapitre sur les biens communs. N'oubliez pas de vous abonner au podcast des matins du samedi, même si vous n'êtes pas obligé d'attendre le podcast pour réécouter en streaming l'émission, et ce, dès maintenant. Dans un instant, c'est les informations suivies des répliques par Alain Finkielkraut. Merci à toute l'équipe de m'avoir aidé à préparer cette émission. Mélodie Chalandon, Paul Moisson, réalisation Doria Zénine, à la technique, Jacques Azubert.